Là où la terre s'assèche sur le 7e continent, quelques coasseurs se baignent dans de maigres flaques. Une aubaine propice aux sonorités les plus étranges. Écoutez, voyez plutôt, le soleil se fait plus fort sous le verbe sec du jaboteur Henri Chopin. Sonneur, ventreur, menteur, charmeur, vision trouble et ondulation fluide sur les étendues désertiques des ondes faunesques.
Ce son, c'est ce qu'on appelle un whoop, c'est-à-dire c'est un cri d'appel longue distance que les hyènes émettent en principe lorsqu'elles sont séparées des autres individus du groupe. Un whoop, ça veut dire c'est moi, je suis là, je m'appelle Nicolas Matvon et je suis professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et mes recherches portent sur la communication acoustique animale. C'est aussi un cri d'appel, hein, ça veut dire y a-t-il quelqu'un, est-ce que vous m'entendez, où êtes-vous? Voilà. Le rire de la hyène, hein, ce rire n'a rien à voir avec notre rire à nous. Hein. On l'appelle rire par homologie parce que ça ressemble à notre oreille. Mais en fait, la hyène qui émet ce giggle, ça n'est pas du tout en train de rire. Les hyènes sont organisées en groupes sociaux qui comptent entre 10 et 80 individus, dans lesquels on a à la fois des mâles et des femelles. Et ce groupe social est très hiérarchisé. Les animaux qui sont le plus haut dans la hiérarchie vont avoir un accès privilégié à la nourriture, et les animaux le plus bas dans la hiérarchie devront attendre leur tour. Et c'est dans ces moments où les animaux sont sur des carcasses que l'on entend le plus ces rires de hyènes, et ces rires varient en fonction de la position hiérarchique de l'individu. Ça fait quelque chose comme... Bon, là, on entend un individu typiquement dominant, avec un rire dont les notes sont toutes identiques. Hein, le... Là, on entend un individu dominé. On part avec des notes relativement graves, on monte dans les aigus et puis on redescend derrière. Quelque chose comme ça. Ceux qui sont privés d'accès à la nourriture émettent ce genre de vocalisation dans un contexte de frustration. Une question intéressante, c'est que ces rires sont susceptibles d'attirer les lions. Donc si autour d'une carcasse, on a beaucoup d'individus hyènes frustrés en train de rigoler, ça veut dire que dans les moments qui vont suivre, il y a beaucoup de lions qui vont arriver. Alors, on peut faire l'hypothèse que les hyènes frustrées, donc n'ont pas accès à la nourriture, rigolent, et que les autres hyènes, les dominantes, qui elles sont en train de se nourrir, ont intérêt à calmer les autres pour éviter de voir les lions rappliquer. On ose faire l'hypothèse de « donne-moi de la viande, sinon je continue de crier pour avertir les lions ». Là, on va un peu loin, hein, parce qu'on n'en sait rien.
Arte Radio. Quoi? Comme.
We're going to do the cobra movement.
présent là, 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 se présente. Il se présente là.
Iderigami signifie dieu de la sécheresse. Il est également appelé Kambo, mère de la sécheresse. Ce yokai habite au fin fond d'une rude montagne. Il a un visage humain et le corps d'un animal. Bien qu'il n'ait qu'un bras et qu'une jambe, il court comme le vent. Quand il apparaît, la pluie cesse et la sécheresse s'installe pour longtemps. À l'ère Kambun, la troupe du seigneur Murakami du fief d'Eshigo, de retour de la capitale, passait près du lac Nojiri du fief Shinano. Il cherchait un endroit pour passer la nuit lorsqu'une tempête se leva soudain. L'un des lieutenants, Tokuemon Ezawa, mit pied à terre pour s'abriter. Les vagues sur le lac se tordirent et formèrent un visage d'environ 1 mètre carré. Le monstre qui sortit mesurait plus de 3,5 mètres de long. Ses cheveux, couleur de lapis, étaient longs. Ses yeux étaient larges de 60 cm et émettaient une lumière rouge. Il était si épouvantable que tous tombèrent dans les pommes, ou peu s'en fallut. Tokuemon, lui, était un brave. Il affronta le yokai au sabre. Le monstre regarda autour de lui pendant un moment, puis retourna au fond de l'ombre. La surface du lac devint rouge et ondula encore, puis le silence revint. De retour à l'auberge, Tokuemon demanda aux travailleurs s'ils avaient déjà vu cette chose. 3 d'entre eux témoignèrent l'avoir déjà rencontrée. D'autres villageois lui expliquèrent que c'était la lumière des yeux du monstre qui, en se reflétant sur l'eau, rendait le lac rouge et que ce monstre était appelé Miroyo, c'est-à-dire l'esprit du sol. À mon avis, Iderigami compte également parmi ses esprits. We'll be right back.
Si l'existence des quarks étranges a commencé à être acceptée en Europe à partir des années 60, elle est devenue incontestable depuis que Maurice Benayoun, avec François Squitaine et Benoît Peters, les ont matérialisés en 3D sur vos écrans en 1991. Ça n'est pas tout à fait la même espèce ? Particules tout aussi élémentaires et tout aussi sensibles aux interactions fortes. Voilà une homonymie qui pourrait bien créer un désordre, capable de faire scintiller les fragments d'un grand nombre d'ordres possibles. Derrière les horizons fracassés de ce septième continent, se profilent des failles, au creux desquelles scintille une braise de substances vivantes, incandescentes. Ça réchauffe et ça brûle, mais on continue à jouer avec le feu, parce que les incendies fascinent, encore et toujours, cela va sans dire. Lorsque la radio se fait sismographe,
il est temps de révéler tout ce que je sais des quarks. Ces êtres étranges, défiant les lois scientifiques les plus admises. Qu'importe les pressions et les menaces, rien désormais ne pourra m'obliger à me taire. L'élastofragmentoplaste, c'est lui qui fut pour moi le sésame de ce nouvel univers.
Les sages ont affirmé que le phénix meurt et renaît quand il approche de sa 500e année. Il ne se nourrit durant sa vie ni d'herbes ni de grains, mais de larmes d'encens et d'amomes. Et le nard et la myrrhe sont ses derniers langes.
Thank you.
Isama. Isama est le diable le plus féroce de l'île d'Okinoerabu. C'est un coq avec des joues rouges et des ailes grises et blanches. Il a l'habitude de rester dans une jarre ou dans un seau vide. C'est pourquoi les insulaires laissent toujours un peu d'eau au fond ou bien retournent ses récipients afin d'éviter que ce diable s'y mette. Selon eux, c'est lui qui cause les incendies. Quand Isama hante une maison, ils appellent immédiatement une prêtresse Shinto pour le chasser. Le coq est le motif de nombreuses croyances populaires. Un coq qui chante la nuit est un présage d'incendie. Dans le canton d'Higashi, Katushika, Ashisha, on fait couler de l'eau dans l'évier quand on entend le coq chanter la nuit pour se prémunir du feu. Du côté d'Ato, on asperge d'eau le sol de terre battue par trois fois. À Kitakyushu, ce sont des plumes de coq sur le toit qui annoncent un incendie. Bref, les exemples sont innombrables. En tout cas, j'imagine qu'Isama a un rapport avec tous ces oiseaux. D'après une enquête, le coq était l'animal le plus souvent détesté par les dieux dans les récits populaires. À Shimoe, dans le département d'Iwate, un vieux coq se transforme en Futashi, un oiseau qui développe une force spirituelle au fur et à mesure qu'il vieillit. Autrefois, une poule Futashi habitait une maison. Bizarrement, tous les enfants de cette famille mouraient en bas âge. Un jour, ils demandèrent à un religieux itinérant d'examiner le sort, lorsque la poule Futashi apparut et dit « J'ai beau pondre des œufs, les humains me les mangent tous et je n'ai pas d'enfants. Alors, je tue les leurs pour me venger. »
ようかい人間なんだ人に姿を見せられるへものの妖怪この体早く人間になりたい暗い定めを吹き飛ばせ
ん
妖怪人間